Encre bleue, l'Océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez Encre bleue, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. L'Association des éditeurs de Tahiti et des îles organise depuis plus de 20 ans le Salon du livre de Tahiti, lire en Polynésie. Public, lecteurs, auteurs, éditeurs, petits et grands se retrouvent au pied du Tumuora, le banyan de la Maison de la Culture de Papeete, pendant 4 jours pour fêter la littérature d'ici et d'ailleurs. Le podcast Encre bleue vous propose de revivre ces moments d'échange avec les nombreux auteurs présents à cette occasion dans les épisodes hors série « Rencontres au pied du banyan ».
Présentation du fabuleux voyage de la langue tahitienne avec Robert Koenig et Jacques Vernaudon, ouvrage paru chez les éditions Hairepo.
Bien, c'est une lourde page que de présenter le livre de Jean-Claude Thériault-Itéraille, parce que en pensant à ce livre, on pourrait penser surtout et imaginer ce qu'il aurait fait et le magnifique Orero qu'il aurait lancé. Mais finalement, je ne suis pas seul pour parler de ce livre de Jean-Claude. Il y a Diana qui est avec nous et que nous accueillons sur le pépé de Henri Hiro. Et puis, il y a aussi Jacques Vernaudon qui nous a aidés à achever ce livre. Alors, c'est vrai, ce livre, c'est le dernier travail de Jean-Claude parce que jusqu'au bout, au cœur de sa maladie, dans la bulle stérile à Paris, il a continué à travailler et à correspondre avec nous et à améliorer son texte jusqu'à la fin. Et c'est lui qui avait choisi cette étonnante couverture d'Andreas Detloff. Fabuleux voyage, c'est bien sûr Jean-Claude qui avait choisi ce titre parce que c'est un fabuleux voyage et je vous invite tous à voyager à la fois dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, puisque nous remontons à 5000 ans en arrière, et dans l'espace, puisque ça va couvrir tout le Pacifique. Dans le temps, jusqu'aux origines de la langue tahitienne, c'est-à-dire jusqu'à la langue austronésienne, et dans l'espace, puisqu'il y a environ 10 000 kilomètres qui nous séparent de Taïwan. Partir à la rencontre des mots tahitiens, avant qu'ils ne deviennent tahitiens, avant qu'ils ne naissent tahitiens, c'est partir à la racine des racines, c'est-à-dire c'est un livre d'étymologie, et pour ainsi dire, c'est le premier livre en français de l'étymologie des mots tahitiens. Partir à la rencontre des racines dans le temps ancien, partir à la rencontre de toutes les langues qu'ont côtoyées tous ceux qui allaient devenir polynésien d'abord et tahitien par la suite. C'est un voyage vraiment fabuleux. Et je voudrais dire que je ne suis pas seul dans ce voyage, puisque j'ai un compagnon de route, Jacques Vernaudon. Mais il faut dire que le travail de Jean-Claude, ce n'était pas un travail en solitaire. C'était un travail qui reposait sur le Polex, c'est-à-dire cette banque de données des langues océaniennes qui avait commencé avec BRICS en Nouvelle-Zélande et le Polex qui se trouve actuellement au bord de la Baltique. Le livre qu'a fait Jean-Claude s'est aussi fait à partir d'un livre australien, le Lexicon of Proto-Oceanic Language, publié par Pacific Linguistics. Et nous avons eu la chance, grâce à toi Jacques, de pouvoir publier les cartes de ce très grand travail de ce lexicon. Et 18 des 19 cartes qui figurent dans le livre, nous les avons eues grâce à l'autorité, à l'amabilité des chercheurs australiens. Ça veut dire que réellement nous ne sommes pas seuls. Et puis il faut dire en un seul mot, le livre de Jean-Claude, il est tout simplement utile et nécessaire. Utile, nécessaire, je crois que c'est Jacques qui va le dire.
Merci Robert, merci pour cette introduction. Et puis merci beaucoup à vous deux, à Robert et Denise, de m'avoir associé à cette aventure. Comme je l'explique dans la préface de l'ouvrage, en fait, Jean-Claude m'a sollicité avant de... J'ai eu une conversation téléphonique, en fait, avant qu'il ne parte en France pour son traitement. Et il me parlait de son livre en gestation. Et il m'avait demandé de... Il m'avait dit, je t'enverrai une copie si tu veux bien me donner ton sentiment. Et donc, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir cet échange avec lui. Et j'ai découvert ce manuscrit grâce à vous deux, quand vous m'avez sollicité. Et donc, effectivement, comme l'expliquait Robert, c'est une chance extraordinaire pour le public francophone et le public de Polynésie française, puisque Jean-Claude fait la synthèse dans cet ouvrage à la fois de ses propres connaissances et de sa grande érudition sur la langue et la culture tahitienne en particulier et polynésienne en général, et donc des connaissances puisées dans deux sources que Robert a citées. Donc le polynésien, le POLEX, un polynésien lexicon, et puis le lexique de linguistique, enfin des langues océaniennes. Alors oui, pourquoi est-ce que c'est un ouvrage à la fois utile et nécessaire? Alors utile d'abord parce que justement, il permet d'accéder en langue française à une somme de connaissances disponibles aujourd'hui sur non seulement le tahitien, les langues polynésiennes, mais aussi les langues austronésiennes en général. Je rappelle brièvement que le tahitien appartient à un groupe linguistique qu'on appelle le groupe des langues polynésiennes. Il y en a une quarantaine, elles s'étendent de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec une langue comme le taku, par exemple, qui est parlée, qui est une langue polynésienne, qui est parlée donc dans la zone géopolitique de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Puis vous avez deux langues polynésiennes qui sont parlées en zone micronésienne. Et puis, évidemment, les langues qui sont... Alors, ce sont des langues qui sont excentrées par rapport au triangle polynésien, donc on les appelle les outliers en anglais. Donc elles sont moins connues ici, mais elles sont tout aussi importantes du point de vue de la reconstruction historique. Donc ça, ce sont la quarantaine de langues polynésiennes qui s'étendent sur l'ensemble du Pacifique, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée jusqu'à l'île de Pâques. Et ces 40 langues polynésiennes, elles entrent elles-mêmes dans un groupe plus large qu'on appelle les langues océaniennes. Il y a environ 400 langues océaniennes, rattachées au phylum des langues océaniennes. Et les langues océaniennes sont elles-mêmes un ensemble linguistique encore plus vaste, qu'on appelle la famille austronésienne. Et au total, il y a à peu près 1000 langues austronésiennes, et la famille austronésienne s'étend de Madagascar jusqu'à l'île de Pâques. Et donc, la famille austronésienne, en fait, elle est identifiée depuis à peu près 3 siècles. Donc ça fait 300 ans, ah oui, parce qu'en fait, dès les premières circumnavigations, vous avez des navigateurs qui sont revenus avec des listes de mots, et en particulier pour l'ensemble qu'on appelle aujourd'hui l'ensemble austronésien, vous avez un philologue hollandais, Adrien Reland, qui est le premier à observer les proximités entre le futunien et les langues malaises. Et c'est le premier à faire l'hypothèse d'une famille linguistique commune. Et depuis 300 ans, vous avez comme ça une accumulation de connaissances scientifiques sur l'histoire de ces langues et donc sur l'étymologie finalement aussi des mots. Et c'est vrai que cette information, elle est publiée massivement en anglais, donc il y a beaucoup de connaissances diffusées en anglais, mais assez peu en français. Et donc voilà, ça c'est la première, c'était pour la première observation sur l'utilité de cet ouvrage, c'est-à-dire qu'il permet de vulgariser, de diffuser ici localement, en langue française, de l'information étymologique sur les langues polynésiennes en général et plus particulièrement sur le tahitien en appui sur cette connaissance scientifique dont Jean-Claude était parfaitement informé et qu'il a su restituer dans cet ouvrage. Nécessaire pourquoi? Parce que justement, à défaut de connaissances scientifiques sur les langues, souvent, et c'est un exercice très pratiqué ici, souvent les gens reconstruisent ce qu'on appelle les étymologies populaires, c'est-à-dire qu'ils inventent des étymologies. Alors, en soi, mon propos n'est pas normatif, ne cherche pas à juger, mais c'est vrai que parfois on est surpris d'entendre, y compris dans des discours, dans des présentations très officielles en fait, des propositions d'étymologie qui sont franchement très farfelues, si je peux me permettre, parce qu'elles sont formulées par des personnes qui ne se sont pas informées de ce que c'est que la reconstruction historique, de ce que c'est que l'étymologie, et quelles sont les méthodes utilisées pour faire la reconstruction. Je rappelle que faire de l'étymologie sur les langues océaniennes, ça ne va pas de soi, puisqu'on n'a pas de traces écrites. Quand on fait l'étymologie sur le français, on peut remonter aux sources, au moins aux sources latines du français, parce qu'on a assez facilement accès à des sources écrites. Et donc, on peut prouver que, par exemple, le mot école vient de scola, etc., parce qu'on a des traces écrites du latin, qui est la langue mère donc du français. En revanche, pour les langues océaniennes, les langues polynésiennes, on n'a pas de traces écrites plus vieilles de 200 ans, ou voire 250 ans. Et donc, la reconstruction des formes anciennes, hein, Robert vous a dit que le voyage démarre il y a 5000 ans, 5500 ans. Pour Taïwan. Et donc, aujourd'hui, les linguistes sont en mesure, grâce à des méthodes très précises, très rigoureuses, de reconstruire des formes qui ont 5500 ans, en l'absence de traces écrites. Et ça, c'est fascinant. Et donc, il existe des méthodes très précises, très rigoureuses, qui se sont élaborées depuis 300 ans, puisque ça fait 300 ans qu'on a cette expérience épistémologique, hein, ce cheminement intellectuel pour construire cette méthode de reconstruction historique à partir de formes contemporaines. Mais c'est une démarche qui est d'abord très rigoureuse, qui repose sur des méthodes qui prennent du temps, etc. Et même le raisonnement, pour comprendre la mécanique du raisonnement, pour remonter dans le temps, ça nécessite un certain travail intellectuel pour comprendre comment on procède. Et cet exercice-là, rigoureux, qui nécessite du temps, c'est pas forcément un exercice auquel on se livre facilement. Et donc c'est pour ça que les gens ne s'informent pas et préfèrent inventer des étymologies qui n'en sont pas. Alors, je vais vous donner un exemple. Et je ne vais pas le prendre en tahitien, justement, pour blesser personne, ne viser personne. Je vais vous prendre l'exemple du mot choucroute. Quand on demande aux gens dans la rue qu'est-ce que ça veut dire choucroute, alors vous savez tous ce que c'est qu'une choucroute. Eh bien, les gens assez facilement répondent « choucroute, ça doit être chou plus croûte ». Parce qu'après tout, dans la choucroute, il y a du chou. Et puis, dessus, on pourrait dire que ça forme une sorte de croûte, après tout. Bon, ok. Donc, c'est ça s'appelle une étymologie populaire. En fait, le mot « choucroute » ne vient ni de « chou » ni de « croûte », mais vient de l'allemand « Sauerkraut ». Et « chou », ça vient pas de « chou », ça vient de « Sauer », qui veut dire « fermenter ». Et croûte, ça vient pas de croûte, ça vient de kraut, qui veut dire herbe. Donc sauerkraut, ça veut dire herbe fermentée. Vous voyez ? Bon, mais pour savoir ça, il faut faire d'allemand, etc. Vous voyez ? Donc il faut monter un cran au-dessus de la simple connaissance immédiate de la langue que l'on parle. Ben là, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que pour faire de la reconstruction historique sur le tahitien, il suffit pas de parler tahitien. Il faut accepter de se plonger dans l'étude de... Alors, si on est sur l'échelle de la langue polynésienne, de la quarantaine de langues polynésiennes, mais si on veut remonter un peu plus haut, il faut regarder la 400 langues océaniennes, et puis si on veut remonter encore plus haut jusqu'aux langues austronésiennes, 1000 langues austronésiennes. Vous imaginez bien, ça suppose de manipuler des bases de données énormes, c'est parfois des vies entières qui sont consacrées au travail de reconstruction, et donc ce n'est pas une mince affaire. Et donc là, j'en reviens à mon propos, on a ça synthétisé pour le tahitien dans un ouvrage, et donc ça permet à la fois donc, de s'informer, et j'espère... d'éviter désormais de reconstruire de manière un peu farfelue les étymologies du tahitien.
Et pour rebondir un peu sur l'idée de Jean-Claude, c'est vrai que c'est un ouvrage tout à fait sérieux et pratique, si je puis m'exprimer ainsi, mais c'est un ouvrage qui peut être lu n'importe comment. Je veux dire par là, on peut le feuilleter, on passe de l'environnement à la faune, à la flore, etc. Et ça veut dire qu'on voit défiler, en tournant les pages, un certain nombre de mots de la langue tahitienne, et chacun de ces mots est passionnant. Pourquoi le mot tarot, par exemple, est resté presque identique à lui-même dans tout le Pacifique ? Pourquoi est-ce qu'il a gardé ses racines austronésiennes et qu'on parle au fond un peu austronésien actuellement ? Et pourquoi d'autres mots, par exemple, le mot Umara, pourquoi c'est un mot étranger, Quechua ? Pourquoi il a gardé sa forme dans cette partie du Pacifique Sud ? Moi, je pense que regarder l'histoire des mots, telle que l'a fait Jean-Claude, voir l'histoire des mots, c'est pas simplement voir l'histoire des mots, mais c'est voir l'histoire des plantes, c'est voir l'histoire des oiseaux. Ça, ce sont les questions qui nous intéressent beaucoup à Hairepo, mais c'est voir l'histoire de la vie elle-même à ce niveau-là. Et c'est pour ça que j'ai voulu venir entourer des livres qu'aimait bien Jean-Claude Terriero-Iterei. Il aimait bien le Davis, le premier dictionnaire de la langue tahitienne, publié en 1851. Et c'est pour ça que je l'ai emmené. Il aimait aussi, parce qu'il était fasciné par ceci, j'ai apporté aussi cette histoire de l'écriture de la langue tahitienne, qui porte un mauvais titre, Au pied de l'écriture. Mais c'est l'histoire de l'écriture elle-même. Pourquoi le 18 mars 1805, on a choisi, plutôt que d'utiliser ou se baser sur les phonèmes de la langue tahitienne, pourquoi est-ce qu'on a plutôt choisi les lettres de l'alphabet britannique? Ça a changé ça a vraiment changé la langue. Et c'est pour ça que, d'après Jean-Claude, un tiers des mots qui sont parlés dans la langue d'aujourd'hui, un tiers des mots sont d'origine austronésienne, mais les deux tiers sont d'origine océanienne. C'est-à-dire que ce sont des mots qui ont fait le voyage dans tout le Pacifique. Et moi, je pense que cette invitation au voyage que nous propose Jean-Claude, c'est une invitation à se prolonger, à avoir des racines très très longues et des racines sur lesquelles on peut compter. Alors, ce que je peux dire, parce que nous nous approchons de la conclusion, j'espère, et ça c'était aussi l'espoir secret de Jean-Claude, c'était que les gens d'aujourd'hui, ceux qui parlent la langue tahitienne, ou ceux qui ne la parlent pas mais qui l'aiment, par exemple, ceux qui s'intéressent à la langue tahitienne voient brusquement la profondeur de la langue, une profondeur dans le temps et dans l'espace. Et peut-être le souhait que l'on a fait, que l'on peut émettre aujourd'hui, c'est qu'il y a le fabuleux voyage de la langue tahitienne. Peut-être un jour, y aura-t-il le fabuleux voyage de la langue marquisienne. Peut-être un jour, il y aura le fabuleux voyage de la langue paumotu ou de la langue des australes. Pour terminer, juste un tout petit mot. Si vous vous intéressez à l'histoire des mots, à l'histoire des noms, à l'histoire des noms personnels, eh bien Jean-Claude, en changeant un peu de méthode, bien entendu, il s'est intéressé au véritable nom des Pomarés. Pomarés, c'est le nom d'un boulevard, bien entendu. Mais quelle est l'essence de ce mot? Quelle est la responsabilité de ce mot Pomarés? Ou encore, une autre tarte à la crème. Quel est le vrai nom de Tupaya? De Tupaya, cet informateur de Parkinson, cet informateur de Matra. Comment s'appelait Tupaya? Jean-Claude était fasciné par ce genre d'énigmes, bien entendu. Et c'est la raison pour laquelle je pense que ça vaut vraiment la peine de jeter un coup d'œil et peut-être d'acheter ce livre de Jean-Claude Terriero y Terrei. Le bruit du vent, Jean-Claude a publié Une rose des vents de la fin du XVIIIe siècle. Et lui qui était très intéressé, Jean-Claude qui était très intéressé par la navigation traditionnelle, lui qui était intéressé par la question du temps océanien, qui était intéressé par le calendrier lunaire, par le nom des planètes, par le nom des étoiles, la manière de naviguer, eh bien, Jean-Claude a étudié le nom des vents, ces vents dans le Pacifique qui ont permis aux pirogues et aux mots de devenir tahitiens.
Je vous encourage à vous plonger dans ce livre. Alors, j'ai parlé de choses un peu techniques, mais ce n'est pas écrit de manière technique, heureusement. C'est de la vulgarisation. Et comme le disait Robert, vous allez comprendre que certains mots qu'on prononce aujourd'hui en tahitien ont 6000 ans. C'est-à-dire un mot comme mata pour les yeux est un mot qui était déjà prononcé comme ça il y a 6000 ans. Et comme ça, il y en a plein, hein, des mots dont vous verrez qu'ils ont une profondeur qui impressionne.
Jacques en parle tout simplement parce que c'est lui qui a fait les vocabulaires du vocabulaire de Parkinson et le vocabulaire de Matra. Mais ça, c'était un autre sujet que l'on abordera demain.
C'était la présentation du fabuleux voyage de la langue tahitienne avec Robert Koenig et Jacques Vernaudon, ouvrage paru chez les éditions Hairepo.
Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à naviguer sur Encre Bleue pour découvrir d'autres murmures de livres et les nombreuses discussions d'auteurs et autrices du Pacifique. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site lireenpolynésie.pf. Maruru et Yaorana.